9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 6 de votre club de l'été 2019, un club ouvert jusqu'au 23 août et dans lequel la culture, le patrimoine et la gastronomie se sont frayés une place de choix. 2 heures de direct, rythmées par les mots sœur, vanille, minéraux et algues. Alors oui, je sais, comme ça, ça pourrait paraître foutraque, mais heureusement, eux viennent remettre de l'ordre dans mon cerveau un peu agité.
Oh, c'est pas sûr ça.
Les experts du club, Lise Pressac pour le tourisme et la culture et Olivier Pouls pour la gastronomie. Salut les amis.
Bonjour à tous.
Comment
bonjour,
ça va? Vous avez passé un bon week-end?
Moi j'ai passé un très bon week-end.
Vous avez bien
mangé? J'ai très bien mangé, j'allais dire j'ai beaucoup mangé mais aussi, mais j'ai très bien mangé, pas autant que vous je pense.
Je sais pas, mais j'ai très bien mangé aussi.
Aussi, et Lise aussi.
Oui, très bien.
Pour tout vous dire, on s'envoie des petites photos de nos soirées du vendredi où apparemment tout le monde a bien mangé et bien bu. Voilà, c'est dit comme
je
ça.
Je vois pas qu'on fait allusion, mais
avec
bon.
Avec modération. Lise, notre invitée du jour, avait très envie d'aller traîner dans le Finistère. On va où exactement?
On va sur la presqu'île de Crozon, découvrir les paysages et les minéraux.
Ah mais formidable. Et Olivier, on va déguster quoi dans ce coin de France?
Des choses peut-être un peu inattendues, des algues, figurez-vous.
Des algues?
On va les manger.
Ça m'étonne de votre part. Mais enfin bon, on terminera l'émission avec une nouvelle recette. Cette semaine, une spéciale salade.
Oui, toute la semaine, on va décliner les salades sous toutes ses formes. Et on va essayer de faire un peu original, tant qu'à faire.
Ouais, très bien. Normalement, si tout va bien au bout de ces 2 heures, nous devrions être repus de nourriture terrestre. Évidemment, je vous le rappelle, ce club de l'été, c'est le vôtre. À vous de réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Je m'y ferai jamais. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité, est déjà venu dans le club de l'été. Nous avions même eu un fou rire mémorable. Il a accepté de revenir et je dois dire que nous en sommes très heureux. Cher invité, comme l'an dernier, quelques sons pour raconter un petit bout de votre vie. D'autres sons que ceux de l'an dernier, bien évidemment.
Caresse photographiée sur ma peau sensible.
Vincent de Dienne, madame. Oh si, je travaille chez Yann Barthès. Voilà la petite speakerine de la télévision.
Il y a des gens qui désirent d'être regardés par le public, c'est-à-dire par beaucoup de yeux anonymes. Ce sont les gens possédés de la gloire et de la notoriété.
Bonjour David Funkinos.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous revoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Avant de décrypter ces quelques sons, vous vous ennuyez chez vous ou on vous manquait pour que vous reveniez?
Vous m'avez beaucoup manqué. J'attends l'été avec impatience juste pour venir ici.
David Funkinos, vous êtes auteur, réalisateur, fan du club de l'été. Votre dernier roman est intitulé 2 sœurs. C'est publié chez Gallimard. On va évidemment y revenir. Quels sons vous venez d'entendre?
Des gens que j'aime, France Gall, Alain Souchon, Milan Kundera, Woody Allen.
Oui.
Et j'aime beaucoup aussi Vincent de Dienne, mais là, c'était un clin d'œil, je pense, au fait qu'on m'a parfois pris pour lui. Voilà.
Exactement.
Quelqu'un est venu me parler en bout de 5 minutes, c'était Valérie Lemercier, et puis elle s'est rendu compte que j'étais pas Vincent de Dienne.
C'est les cheveux.
Donc voilà, c'est mon sosie officiel. Mais c'est vrai qu'il pourrait tout à fait être dans cette liste des gens que j'admire, parce que je l'ai vu au théâtre et j'aime beaucoup cet acteur.
On a entendu un son que vous n'avez pas forcément entendu au tout début de ce portrait sonore, qui est un sèche-cheveux.
Ah, je ne l'ai pas entendu.
Oui.
C'est vrai que je suis un psychopathe du sèche-cheveux, j'adore ça. et d'ailleurs, étymologiquement, Funkinos en allemand, c'est sèche-cheveux et cinéma.
Et ouais,
c'est bien mes deux passions.
Et alors, pourquoi on a entendu cette chanson particulièrement d'Alain Souchon qui s'appelle « L'amour en fuite » ?
Alors, L'amour en fuite, d'abord, j'adore François Truffaut et c'est vrai que c'était la chanson titre du film L'amour en fuite. Et c'est une chanson qui m'a un petit peu porté bonheur parce que je l'avais mise dans mon livre La délicatesse, qui a été mon premier livre qui a vraiment rencontré le public. Et c'est vrai que pour moi, Souchon représente la délicatesse, la douceur, la nonchalance, la mélancolie. C'est vraiment pour moi un génie absolu.
Et France Gall, il y a une petite histoire personnelle autour de France Gall.
Alors France Gall, je l'écoute pratiquement tous les jours. Je suis fou du couple France Gall et Michel Berger. L'histoire personnelle, c'est que ma grand-mère qui a été cuisinière, c'est vrai, a été pendant tout un été, je crois que c'était en 82, à Saint-Tropez, la cuisinière du couple France Gall-Michel Berger. Donc voilà, elle m'en parlait tout le temps avec des yeux qui pétillaient.
Qui brillaient,
ouais. Elle était, quand on parlait de Michel Berger, j'ai l'impression qu'elle parlait d'un nouveau fils.
Mais qu'est-ce qu'il mangeait?
Ça, je peux pas vous dire. Je sais juste que mon grand-père se baignait dans la piscine le matin, avant tout le monde, mais voilà, ça, je peux pas vous dire ce qu'il mangeait.
En parlant de musique, l'an dernier, David Funkinos, vous nous aviez raconté écrire en écoutant de la musique. À quoi ressemblait la playlist pendant l'écriture de Deux Sœurs, dont nous allons parler ensuite?
Ah, Deux Sœurs, c'est une sorte de thriller un peu émotionnel, et c'est vrai que j'écoutais pas quelque chose de précis. Je crois que j'ai pas beaucoup écouté de musique en écrivant Deux Sœurs, mais c'est vrai que on parlait de la délicatesse, j'ai écouté Souchon.
Ouais.
Quand j'ai écrit mon roman sur Charlotte Salomon, j'écoutais beaucoup Schubert. Le Mystère en réplique, j'ai écouté beaucoup de jazz. Mais je crois que Deux Sœurs, ça a été un livre assez silencieux.
C'est
quoi.
Vrai.
Ouais, mais je pense qu'il fallait rester concentré sur, comme ça, sur ce côté un peu inquiétant, et je pense que c'était pas la peine d'accompagner ça.
Et vous l'avez écrit où, ce roman, vous qui adorez changer de lieu pour chaque écriture?
Moi, j'adore écrire dans les trains. Donc ouais. C'est vrai que je l'ai écrit, je me souviens, j'étais parti en Suisse, en Allemagne, voilà, à chaque fois, ça m'arrive même d'accepter des dédicaces, parfois, ou des rencontres avec les lecteurs, à l'autre bout de la France, juste parce que je sais que j'ai 3-4 heures
de
aller-retour. Voilà.
C'est séance de travail.
Ah, moi, je suis très, je suis vraiment, j'adore écrire dans le train.
Oui, Olivier Pouls.
On recevait un autre écrivain à votre place la semaine dernière, Guillaume Musso, qui lui expliquait que pour écrire, il devait absolument être dans son environnement, dans son bureau. Il avait une espèce de
rituel
quotidien.
Ouais,
où il... D'ailleurs, c'était un bureau qui était dédié uniquement à ça. Donc, vous fonctionnez totalement différemment.
Oui,
vous êtes
un
écrivain itinérant.
Il y a deux types d'écrivains. Ceux qui aiment bien avoir leur bureau. Voilà, voilà. Moi, j'aime bien justement être déraciné de ce que je peux voir, ne pas savoir forcément où je suis. J'ai la chance de voyager beaucoup aussi pour mes livres. Je peux écrire dans les hôtels où je peux être, un petit peu partout.
Il paraît que vous pouvez même écrire dans votre lit.
Alors ça, c'est quand je suis chez moi. Ça, c'est vrai que c'est la pièce où c'est le lieu où j'écris, oui, dans mon lit.
Mais comment vous
faites? Ce qu'il faudrait, c'est un wagon lit, quoi.
Un wagon lit, ce serait parfait.
Ça serait
pour
idéal.
Vous, en fait.
Non, je crois pas. Pour moi, c'est l'archétype de l'angoisse de dormir dans un train.
Il y en a plus beaucoup. Hein. C'est oui. Vraiment, il y a plus que quelques lignes où on
c'est
peut encore.
Je l'ai fait une fois en Ukraine, et c'est vrai que je me suis retrouvé avec un homme un peu bizarre, très alcoolique, et c'est vrai que j'ai pas dormi de la nuit, quoi.
David Funkinos, l'an dernier, vous aviez eu l'intelligence de vouloir partir dans la région de Nice en deuxième partie d'émission. Décor de votre
l'intelligence,
excellent,
en toute objectivité, bien sûr.
Perso, ça, ouais.
Excellent roman, votre décor, le décor de votre excellent roman Charlotte. Et là, cette année, je suis un petit peu déçue. Vous nous emmenez dans le décor d'un autre de vos romans, Le Mystère Henri Pic, le Finistère. Je me suis dit que vous étiez vraiment scorpion, c'est-à-dire que vous êtes toujours divisé en deux, mais même géographiquement, c'est-à-dire
Bretagne et
sud-ouest. Et sud-est.
Oui, parce que moi, je n'ai pas d'attache particulière. Mes grands-parents étaient à Perpignan, mais c'est vrai que voilà, moi, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu. Donc, c'est, par rapport à la question d'une région de souvenirs ou d'enfance, j'ai plutôt choisi la Bretagne, qui a été très importante pour moi, puisque j'ai quelques souvenirs là-bas d'amitié et de vacances. Et j'adore cet endroit, voilà, et notamment
on va y revenir plus que d'amitié.
Oui, non, mais oui. Quand j'étais plus jeune, effectivement.
Oui.
Et donc, voilà, c'est là, j'avais été tellement marqué aussi par la... Voilà le côté sauvage de la presqu'île de Crozon, puis du Finistère d'une manière générale, que j'ai décidé de placer mon roman, l'intrigue de mon roman Le Mystère Henri Pic, avec cette bibliothèque des livres refusés là-bas à Crozon. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, voilà, en plus, il y a eu le film cette année avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin. Il y a plein de gens qui ont des manuscrits et qui écrivent, qui vont maintenant à Crozon, à la bibliothèque de Crozon, et vont déposer leurs manuscrits.
Eh ben, on y passera la deuxième heure de cette émission. Nous avons jusqu'à 11h pour tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête de David Funkinos. Je ne sais pas si ça va suffire.
Oh oui, 2h, c'est largement suffisant.
Bon, avant d'attaquer ce dossier, pause musicale avec le groupe Redbone sur Europe 1 et Come and Get Your Love.
Le club de l'été, 2 heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Il est 23h. Oui. Ça commence très très bien cette journée.
Il est très tard dans votre tête, Eva.
J'ai jamais entendu un tel lapsus.
Le décalage horaire est violent.
Il est 9h23.
C'était les minutes, voilà. C'était les minutes.
Nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été.
Bonne nuit.
Notre invité du jour est l'écrivain David Funkinos. Et je suis déjà très fatiguée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux via Twitter avec le hashtag Europe 1. Et avec Lise, on va relayer tous vos messages et vos questions également. Lise, je crois qu'on a déjà des messages.
Il y a beaucoup de fans de vous, David. Florence qui dit belle émission en perspective. David Funkinos est tellement sympathique et passionnant. Il y a Isabelle qui écrit simplement la délicatesse, merveilleux, 5 points d'exclamation. Voilà.
Merci.
C'est vrai que la délicatesse, on vous en parle souvent. Là, ce matin, on voulait parler de Deux Sœurs, votre dernier roman édité chez Gallimard. C'est l'histoire de Mathilde, elle est prof de français. Une femme malheureuse, depuis qu'Étienne, son amoureux, a préféré rejoindre son ex-petite amie. Mathilde, elle trouve refuge chez sa sœur Agathe. Alors, c'est un récit en deux parties. La première partie, c'est la séparation. Et puis ensuite, c'est l'installation donc, de Mathilde chez sa sœur Agathe. Avec un suspense plutôt inattendu, parce qu'on vraiment, on tombe dans le polar, en fait. Hein. Mathilde, elle adore l'éducation sentimentale de Flaubert qu'elle fait étudier à ses élèves. Vous pensez que la littérature peut apporter des réponses à nos questions existentielles ?
Moi, la littérature a sauvé ma vie d'une certaine manière. Quand j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans, je me suis mis à lire, et c'est vrai que c'était le début de ma vocation. Ça m'a permis de voyager, ça m'a consolé, et ça m'a aidé. Mais là, en l'occurrence, Mathilde, non, elle est professeure de français, elle est extrêmement bienveillante, elle aime ses élèves, elle est nourrie comme ça à la littérature du 19e siècle. On va bien se rendre compte que non seulement ça ne l'aide pas,
oui,
mais en plus, elle est un petit peu déconnectée de la réalité. Puisque c'est pas parce qu'on connaît la psychologie des personnages de roman qu'elle va être capable de surmonter cette douleur terrible qu'elle vit. C'est vrai que la première partie, c'est une séparation amoureuse que je voulais décrire d'une manière extrême, extrêmement brutale. Et c'est vrai qu'elle va se retrouver sans sa raison d'être, sans sa raison de vivre. Et donc, soit on s'effondre, soit on se réinvente. Et c'est vrai qu'elle va changer de personnalité. Et c'est là que le roman va devenir un petit peu inquiétant quand elle va aller vivre chez sa sœur.
Qu'est-ce qui vous fascine autant dans la rupture amoureuse ? Vous tentez de trouver des solutions à vos propres questions ?
Je sais pas si ça me... Non, pas spécialement. Non, mais c'est vrai, je sais pas si ça me... Je peux pas dire que la douleur me fascine. Mais en tout cas, l'idée qu'on puisse comme ça avoir un monde qui s'écroule... C'est vrai que dans mes romans, d'une manière générale, c'est souvent marqué par la rupture. On parlait de la délicatesse, c'est vrai qu'il y a un deuil. Après, elle se réinvente en rencontrant un Suédois dépressif.
Oui.
Donc on est plus dans la comédie.
Dans la comédie,
mais
bien sûr.
Charlotte,
ouais,
évidemment, sa vie est marquée comme ça par la brisure aussi, le mystère en épique aussi. Tous mes romans comme ça ont un moment donné où il faut se réinventer. Là, c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est aussi la seconde partie. Le sujet d'une femme qui va aller se retrouver vivre chez sa sœur, qui nage en plein bonheur, qui vient de se marier, qui a un enfant.
Entre les deux, ouais.
Oui, et puis votre sœur qui vit exactement la vie que vous auriez dû avoir. Puisque elle, Mathilde, avec son fiancé, elle allait se marier, elle pensait, voilà, il parlait avenir, enfant, et puis il la quitte du jour au lendemain. Donc elle se retrouve amputée de cette vie qu'elle voit au quotidien, comme ça, quand elle va vivre chez sa sœur. Et donc ça va la faire... Déraper, voilà, on peut pas raconter jusqu'au bout.
Alors vraiment, à chaque fois on vous le dit, mais allez lire jusqu'à la dernière page, sinon vous allez vraiment louper un bout du livre.
C'est dommage de s'arrêter au milieu en même temps.
Oui, mais alors page 139, vous écrivez « On ne pouvait pas être heureux quand on avait trop lu ». Je me suis demandé si vous vous sabordiez pas un petit peu, David Funkinos.
Oui, arrêtez de lire.
Mais
justement, c'est ce qu'elle dit, elle.
Oui.
Voilà, c'est ce qu'elle dit, que la littérature ne l'aide pas, ne l'accompagne pas.
Ouais.
J'ai un autre roman qui s'appelle « Vers la beauté » qui parle justement à quel point l'art peut
nous
aider,
nous en parler l'année
dernière, nous consoler, ouais. Voilà, ouais. Nous sauver. Donc, ce n'est pas du tout ce que je pense. Mais il y a certains moments, évidemment, rien ne peut nous sauver.
Olivier Pouls.
Qu'est-ce qui fait le point de départ d'un roman ? C'est quoi ? Quelle est l'idée qui... Vous dites, je vais écrire sur cette histoire de deux sœurs, cette rupture. Qu'est-ce qui fait le point de départ ?
Alors vraiment, il y a deux thèmes qui sont arrivés en même temps. La rupture amoureuse, que j'avais envie de traiter d'une manière vraiment atomique, d'une certaine manière. Et puis, ce rapport comme ça entre deux sœurs, ce rapport familial, où on est obligé de s'entraider, mais elles ne sont pas forcément proches. Et puis l'idée que...
Vous avez des frères et sœurs ?
Oui, j'ai mon frère. C'est pour ça que je n'ai pas écrit la version masculine, parce que moi, je m'entends très bien. Mais très honnêtement, j'aurais pu écrire deux frères, parce que
bien
la
sûr.
Rupture amoureuse, ce n'est pas du tout, c'est pas féminin. Cette histoire, mot pour mot, aurait pu être entre deux hommes. Mais c'est vrai que l'idée que dans les familles aussi, parfois, on compare les destins, il y a quelque chose de l'ordre d'une rivalité sournoise. Et donc, c'est vrai que c'est assez insupportable pour elle, non seulement d'aller mal, mais en plus d'avoir le bonheur de sa sœur qui lui saute au visage. Et ça, je trouvais que c'était le thème initial.
Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un roman grave et assez triste. Le récit l'est, mais il y a une chose qui apporte un sourire et on entend votre voix à la lecture. Ce sont les notes de bas de page où vous adressez au lecteur régulièrement, notamment en revenant sur le sens de certaines expressions qu'on entend à longueur de journée et qui agacent, surtout quand vous êtes en pleine rupture amoureuse. C'est un peu votre côté Woody Allen, j'ai trouvé les notes de bas de page, David Funkinos.
D'abord, je trouve ça très sexy dans un livre, une petite note en bas de page. Moi, ça me met en état littéraire.
Ah bon ?
Chacun ses excitations. Mais c'est vrai que moi, je raconte pas des livres autobiographiques. même quand j'avais écrit Je vais mieux, qui était l'histoire d'un homme qui avait mal au dos, tout le monde venait me voir en me racontant ses problèmes de dos, c'était pas autobiographique, on me prenait pour un ostéopathe. mais voilà, par contre, c'est très important pour moi d'être présent, c'est-à-dire par le ton, par les notes en bas de page donnent aussi, d'une certaine manière, le point de vue, comme si j'étais avec le lecteur en train d'assister à l'histoire et à la dérive de Mathilde.
Et ça marche très très bien. Dans un instant, David Funkinos, vous allez nous faire partager un coup de cœur pour un livre et je suis à 1000% d'accord avec vous.
Super.
Nous vous réservons également un autre coup de cœur, celui de la bande du club de l'été. A tout de suite pour la suite du club, justement, sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Eva Rock.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été en présence de notre invité VIP, David Funkinos. Comme l'an dernier, David, on vous a demandé quel avait été l'un de vos coups de cœur des dernières semaines. Il s'agit d'un roman, d'un auteur qui est plus connu d'ailleurs pour ses bandes dessinées et dont nous sommes fans par ailleurs et qui s'appelle Fab Caro, Fabrice Caro. Son livre, son roman s'appelle Le Discours, c'est édité chez Gallimard. Alors évidemment, je l'ai lu. Enfin, évidemment, je l'ai lu parce que ça faisait deux fois que vous me le conseillez. Donc, comme je vous écoute religieusement, je suis allée le lire. Je pense que je n'ai jamais autant ri en lisant un roman. Mais vraiment, j'ai ri, mais aux éclats. Pourquoi ce choix ? Pour l'humour,
justement. La qualité première, c'est vraiment l'humour. C'est une drôlerie incroyable, mais c'est vrai que, en plus, c'est porté par une écriture vraiment.
Vous arrivez à le pitcher en quelques secondes ?
Oui, c'est un déjeuner de famille. Donc, déjà, on a tout compris.
Ouais.
Lui, il est célibataire. Tout le monde lui pose des questions sur sa vie, sur sa.
Mais il a 40
et
ans
en plus,
et il est toujours célibataire.
Il est en break.
Ouais.
Et ça, c'est terrible, puisque au bout de 40 jours, il a quand même envoyé un petit texto,
ouais.
Mais un peu minable, où il a fini par bisous.
Ouais.
Et puis, il se dit, j'aurais pas dû envoyer ce texto. Et puis, voilà, il est totalement. Traversé par ça. Et
j'ai
en même temps,
il
a sa sœur et son beau-frère qui sont un couple totalement savoureux. Les parents, c'est le déjeuner du dimanche familial qui tourne vraiment à l'horreur. Extrêmement bien écrit, très drôle. C'est vrai qu'il a en plus un sens de l'absurde. J'avais lu ses BD, Zai, c'est sa plus connue, qui est très très drôle, avec un homme qui est comme ça, qui est poursuivi comme s'il avait fait un attentat, tout simplement parce qu'il n'avait pas sa carte de fidélité du magasin. Et donc, il y a comme ça des petites choses, toujours, vraiment beaucoup de détails. Il rencontre une fille juste à un moment donné où il était en train d'acheter un disque de Claude Barzotti et c'est vraiment pas le bon moment pour rencontrer. Enfin, vraiment, c'est
truffé. Et il met le disque dans son sac pour le planquer et évidemment, il oublie qu'il a le disque
et
dans
oui,
le sac.
Et oui, le livre s'appelle aussi Le Discours, parce qu'il est censé faire un discours
au mariage de sa sœur
et vraiment difficile de faire situation plus angoissante.
Surtout quand on est en rupture amoureuse.
Donc il tente des
évidemment.
Discours dans sa tête.
C'est extraordinaire. Franchement, ça s'appelle Le Discours. C'est un roman et c'est de Fabrice Caro et c'est chez Gallimard. C'est David Funkinos qui vous le recommande. Et vraiment, je plus sois, comme on dit. Merci beaucoup. Vous pourriez être libraire, David Funkinos.
Mais en même temps, moi, j'aime bien Claude Barzotti.
Mais lui aussi aime bien
Claude Barzotti. Ah, mais il n'y a rien. Il adore aussi. Hein, ouais.
On va vous mettre un petit bout de Claude Barzotti à un moment donné. On va continuer justement à parler de musique avec l'équipe du club de l'été. David Funkinos, on souhaitait vous faire part d'un coup de cœur. Ça ressemble à ça.
Si tu suivais le soleil, juste pour changer de peau.
Bonjour Vanille.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en studio ce matin. Vanille, vous avez 31 ans, vous
exact.
Êtes chanteuse. Et à Europe 1, on a craqué pour votre premier album qui sent bon la samba et la bossa nova. On en écoutera un extrait beaucoup plus long tout à l'heure. Votre album est le reflet des voyages que vous avez réalisés tout au long de votre vie ? Ou pas du tout ?
Oui, un petit peu. Des voyages que j'ai réalisés et aussi des lectures que j'ai pu faire et de ma vie intime, de mes relations, etc. Donc c'est tout un mélange.
La littérature peut être une source d'inspiration pour la musicienne que vous êtes ?
Oui.
Alors,
beaucoup.
Quels titres, par exemple, qui vous ont inspiré pour cet album ?
Moi,
il s'appelle Amazona, je ne l'ai pas dit.
Moi, j'aime beaucoup Françoise Sagan, Marguerite Duras, etc. Ce que j'aime chez Françoise Sagan, c'est un peu comme la bossa nova brésilienne, c'est-à-dire toujours cette manière de parler de la mélancolie de manière légère et plutôt gaie. Donc ça, pour moi, ça correspond à la vie.
Vous avez d'ailleurs enregistré cet album au Brésil, si je ne me trompe
oui,
pas, c'est le cas. Pourquoi ?
Exactement. Parce que c'est la musique brésilienne, c'est quelque chose qui m'a énormément inspirée. Toujours pour cette manière de parler de la vie et de nos tristesses de manière légère et rythmée. Et enregistré avec des musiciens du CRU, ça a été pour moi un rêve réalisé.
Et qui sont les artistes que vous mettez dans votre panthéon ?
Brésilien.
Ouais, brésilien notamment.
J'aime beaucoup Caetano Veloso, ouais. Et aussi énormément João Gilberto qui nous a quittés il y a peu.
Dernière,
voilà,
ouais,
ça m'a fait vraiment quelque chose parce que je me suis beaucoup inspirée de la manière de chanter de João Gilberto. Et lui, il timbrait beaucoup au début de sa carrière et ensuite il s'est mis à chanter vraiment sur le souffle et c'est ça qui a fait son succès. Et je me suis beaucoup inspirée de ça aussi. J'avais tendance à beaucoup timbrer ma voix. Et je me suis mis à...
Qu'est-ce que vous voulez dire par timbrer votre voix ?
C'est-à-dire chanter un peu plus fort.
Oui.
Espèce de manière de vouloir s'affirmer comme ça, qui n'est pas forcément nécessaire. Ça dépend de sa personnalité et ce qu'on veut proposer artistiquement. Mais moi, ça me collait mieux de raconter des petites histoires à l'oreille, un petit peu comme ça.
Bah, comme les écrivains, David Funkinos, il adore le jazz et la bossa nova, ça fait partie aussi de cet univers
Je voyage immédiatement. C'est vrai que j'ai joué beaucoup de bossa nova. Et c'est vrai que c'est...
Parce que monsieur était guitariste.
J'ai vu ça.
Poser un accord de bossa nova sur une guitare, c'est absolument mélodieux, c'est sublime.
C'est compliqué ou pas ? Parce qu'on a l'impression que c'est une musique facile, mais j'ai toujours un doute quand on a l'impression que quelque chose est facile.
C'est pas la plus compliquée, mais après, être bon, c'est très compliqué.
Oui,
c'est pas forcément mon cas.
Des accords d'une richesse incroyable. Voilà, c'est pas des do, des ré, etc., qu'on a tendance à jouer plus facilement, mais les accords dont vous venez de parler, plaquer cet accord qui est souvent très riche et qui nous emmène directement ailleurs. Quoi. Oui. Ouais.
Si vous deviez décrire votre musique en une seule saveur, parce qu'on aime bien jouer avec les sens dans le club de l'été, ça serait laquelle ?
Une seule saveur ?
Oui, une seule saveur.
Vanille.
On attendait cette réponse.
C'était pas facile, en fait. Je me suis fait piéger. Je me suis auto-piégée, en fait. Dites-moi, on va quand même préciser dans votre panthéon personnel, j'imagine qu'il y a peut-être votre papa, Julien Clerc, quand même.
Oui.
Il vous a inspiré ?
Bien sûr, parce que j'ai grandi en le suivant pas mal sur la route. Et aussi, bien sûr, les grands noms de la chanson française. Gainsbourg, Souchon, Barbara. Moi, c'est des gens qui m'ont particulièrement... inspiré.
Mais la musique, c'était une évidence parce que j'avais cru comprendre que vous étiez mise assez tardivement, en fait, autour de l'âge de 20 ans. C'est ça, c'était pas, ça n'a pas été dès 4 ans avec une guitare à la main.
Non, pas du tout. J'ai commencé la guitare, moi, à 21 ans, toute seule sur YouTube, de manière autodidacte.
Ouais.
Et ensuite, j'ai commencé à chanter et écrire encore plus tard. Donc d'où ce premier album très mûri à 31 ans quoi, voilà.
Vous auriez pu avoir un professeur de guitare, en l'occurrence David Funkinos.
Ah bah oui, j'ai vu ça.
Mais j'espère pas pour elle. Hein. C'est pour ça que je me suis mis à écrire. Hein.
Des petites histoires comme on raconte aussi dans cet album qui s'appelle Amazona. Votre été est rythmé par des concerts dans les festivals. Oui. Vanny, comment vous appréhendez la scène ?
J'appréhende la scène de manière très positive parce que j'ai fait beaucoup de bars et de petites scènes seule guitare-voix. Et là, de pouvoir être accompagnée en groupe, c'est vraiment un grand bonheur. La musique, pour moi, c'est quand même le partage en premier. Et donc, quand on est accompagné, voilà, là, j'ai percussionniste, etc. Donc, c'est vraiment, c'est excellent, quoi. C'est une grande joie.
Et notamment, le 8 août, vous serez en première partie de Zazie à Ajaccio. Hein,
exactement.
Sur une île, avec de la bossa nova. Moi, je trouve ça formidable. Hein. Je ne peux pas vous demander de chanter quelques notes comme ça au micro. C'est difficile ou pas? C'est un peu dur.
Peut-être d'une de mes chansons
Enfin, ce que vous voulez, d'ailleurs. Ce que vous voulez.
Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais, oui, Paris, c'est froid, c'est chagrin.
Merci beaucoup, Vanny. Merci.
Si j'avais su, j'aurais emmené ma guitare.
Oui. Ça me fait des petits frissons. Merci, Vanny, d'être passée par ce studio pour évoquer
Eva.
Votre premier album. Ça s'appelle Amazona. Dans quelques minutes, on va écouter Si tu suivais le soleil, titre extrait de cet opus qu'on adore et qui passe en boucle sur Europe 1. Et on vous souhaite un merveilleux été sur scène. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.
Dans un instant, on continue de parcourir la liste de nos envies. Non, Claude Barzotti, c'est pas possible.
Vous l'avez dit, mais pas maintenant.
Merci beaucoup.
Allez, dans un instant, ce sera nos coups de cœur écran. À tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Eva Rock.
2 heures de direct tous les matins, de 9h à 11h avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls. C'est ça, le club de l'été d'Europe 1. Et comme tous les matins, nous avons un invité de marque qui a sa carte d'adhérent à vie au club, l'écrivain David Funkinos. Tout va bien, David ?
Ça va très bien.
Bon, depuis quelques...
Mais Groucho Marx disait... je refuserai tout club qui me veut pour membre.
Ah bon ? Ah mince. Ok. Depuis quelques temps, j'ai une question récurrente pour les auteurs, notamment ceux dont les œuvres sont régulièrement adaptées, alors au cinéma, à la télé ou au théâtre. Est-ce que les plateformes de type Netflix ou Amazon vous sollicitent pour l'écriture de séries ?
Beaucoup. C'est vrai, quand on est en capacité d'écrire des histoires, moi j'écris des romans, vraiment des fictions où j'invente des histoires, des personnages, avec un début, un milieu, une fin, avec le désir que les lecteurs aient envie de suivre cette histoire. C'est vrai qu'on est très sollicité par les plateformes et d'une manière générale par les productions de séries.
Et
j'ai déjà beaucoup de travail entre mes romans, mes films, parce que je suis aussi réalisateur. Notre dernier film avec mon frère, c'était Jalouse, avec Karine Viard. On prépare un nouveau film. J'écris aussi pour le théâtre, j'aurai des pièces l'année prochaine. Donc voilà, je peux pas tout faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, je réfléchis plutôt à des histoires de cinéma ou des romans sur des formats plus courts. Si j'ai une idée qui puisse être portée par un souffle plus long, c'est vrai que la série est extraordinaire pour ça.
Quelles sont les adaptations en cours de vos romans ? En théâtre ou
alors,
au cinéma ?
La dernière, c'était Le Mystère Henri Pic avec Fabrice Luchini et Camille Cotin. Là, il va y avoir Charlotte qui va se faire au cinéma sûrement en tournage cette année. Et puis
on
deux
connaît
sœurs.
Le réalisateur pour Charlotte ?
Oui, pour l'instant, mais je préfère pas. Voilà, c'est en projet. Et puis il y a Deux Sœurs
qui sera adaptée au
cinéma. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de propositions quand le livre est sorti il y a 3 mois. Parce que c'est une histoire très cinématographique.
Ah, je l'aurais bien vu au théâtre, moi, vous voyez, Deux Sœurs.
C'est possible, parce que c'est vrai que vous avez raison, la deuxième partie, c'est vraiment un huis clos entre les deux sœurs, et puis ça se passe assez mal, et il y a beaucoup de choses qui font que ça pourrait être assez théâtral. Mais ça va, l'un n'empêche pas l'autre.
Ils sont en train de nous annoncer et la télévision.
Peut-être que ça deviendra aussi. J'ai eu Charlotte qui a été au théâtre cette année. J'ai eu aussi mon roman Le Potentiel érotique de ma femme.
On en avait parlé l'année
dernière. Qui avait été au théâtre cette année. Donc parfois, moi je m'en occuperai pas, mais parfois c'est vrai que les histoires.
Alors comment ça se passe dès que le livre sort, vous recevez plein de coups de fil de réalisateurs, de producteurs qui disent je le veux. Vous faites monter les enchères.
Non, pas les enchères, parce que ça reste aussi un choix artistique. Mais donc on va pas forcément au plus offrant. Les Souvenirs, par exemple, qui avaient été réalisés par Jean Polot avec Annie Cordy, j'étais allé avec une production qui avait jamais rien produit, voilà, parce que j'aimais ce projet. Donc on fait pas monter les enchères, mais c'est vrai que Deux Sœurs, c'est le livre qui a eu le plus de propositions, parce que c'est vrai que il y a un côté un peu chabrolien où voilà, il y a une montée en puissance du drame.
Vous pensez déjà au cinéma qui peut venir derrière, ou ça n'a rien
Non,
à
alors
voir.
Franchement, j'aurais aucun problème à l'idée de dire voilà, j'ai pensé que ça pourrait devenir un film. J'adore raconter des histoires, donc ça peut potentiellement devenir des films. Mais c'est vrai que quand on lit mon roman Deux Sœurs, ce qui m'excite vraiment, c'est d'aller au plus profond de la psychologie complexe de cette femme. Dans un premier temps, la rupture amoureuse et comment surmonter ça. Et elle est traversée par des sentiments tellement ambivalents et complexes où elle a envie de se laisser sombrer. Et puis en même temps, elle a une sorte de haine contre tout le monde parce qu'elle estime que cette séparation est une injustice. Je trouve qu'il n'y a que la littérature qui peut aller au plus profond de cette complexité-là.
Est-ce que vous contrôlez aussi les versions audio de vos livres ?
Non. Alors c'est vrai que je ne les écoute même jamais.
Oui.
Le Deux Sœurs a été lu par Marie-Julie Baupe, qui est une actrice par contre que j'ai choisie pour la première fois pour le livre audio, parce que j'adore cette actrice qui jouait dans mon film Jalouse, et puis elle est beaucoup au théâtre.
D'accord. Donc là, c'était la première fois que vous choisissiez la récitante, en quelque sorte.
Mais après, on propose des noms, c'est toujours de très bons acteurs. Mais après, c'est vrai que je n'écoute pas beaucoup de livres audio et je n'ai pas écouté.
Alors en parlant d'écran, on vous a demandé quelle était votre série préférée et vous nous avez répondu ça. Première note, alors les gens qui connaissent vont reconnaître le générique de
Seinfeld.
Seinfeld.
Ouais, Jerry Seinfeld. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas très moderne. Hein.
Non, série culte aux États-Unis avec Jerry Seinfeld, qui est humoriste. La série Imagine son quotidien. Série dont la diffusion s'est terminée justement en 1998, David Funkinos. Mm. Depuis, aucune série n'a trouvé grâce à vos yeux ?
Si, plein, mais vous me demandez ma série préférée, ma série culte, donc je n'ai pas fait de liste. Il y a plein de choses forcément que j'aime, mais ça a été incroyablement marquant. J'ai lu d'ailleurs hier dans le JDD que maintenant il y avait l'intégrale sur Amazon, pour ceux qui veulent le voir, et que le dernier épisode avait été suivi par 76 millions d'Américains.
Un quart
des Américains.
Oui.
C'était phénoménal, mais c'est vrai que c'est un humour. Gad Elmaleh a beaucoup parlé de Jerry Seinfeld comme une voix qui l'inspirait. C'est vrai que c'est incroyablement drôle, absurde. C'est une série. En plus, ils avaient annoncé que c'était une série sur rien.
Oui,
nothing. Donc, il ne se passait rien. C'était deux voisins. Et en fait, ils pouvaient prendre n'importe quel sujet. Par exemple, ils allaient à un cocktail. Et puis, il trempait une carotte dans la sauce. Il faisait tout l'épisode sur est-ce qu'on a le droit de tremper deux fois cette carotte dans la sauce ou on doit le faire qu'une fois.
Et comment on peut réussir à capter l'attention de David Fuitminos quand on écrit une série ou quand on en réalise une?
Bah, je crois que ça s'explique pas, c'est organique. C'est ouais. L'humour, par exemple, on peut pas définir. Tout à l'heure, on parlait de Fabrice Caro. Moi, je sais que ça me faisait mourir de rire. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont voir cette série qui vont être hermétiques à ça. Ou en tout cas à cet humour. C'est difficile d'essayer de comprendre ce qui fonctionne en termes d'humour. Voilà, pour chacun.
Alors moi, de mon côté, justement, je voulais vous faire partager un coup de cœur pour une humoriste aussi. Elle est belge, elle est mère de famille, c'est une ancienne prof de français, elle a fini par changer de vie et raconter sur scène son quotidien agité avec 4 enfants. Alors sur scène, dans la vraie vie, elle en a 3. Elle s'appelle Véronique Gallo et son One Woman Show est diffusé ce soir sur W9 à 21h.
Je voulais 4 enfants, je rêvais de 4 enfants, je les ai eus. Mais enfin Mathilde, est-ce que tu as déjà vu maman qui criait sur vous parce qu'on n'avait pas fait la vaisselle? Franchement, non. Oui, enfin tu montes maintenant. Allez, hop, en avant.
Toujours très compliqué de mettre un extrait d'un spectacle parce que, bon, d'autant plus que là, vraiment, ce One Woman Show dans lequel Véronique Gallo laisse beaucoup d'énergie, c'est tout son univers avec ses pioupiou. Alors, pas besoin d'être mère de famille pour être sensible à ses propos. Chacun s'y retrouve. Personnellement, j'ai entendu ma mère tout au long du spectacle et je peux vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup ri.
Véronique Faisiez Gallo, pas la vaisselle non plus.
Pardon?
Faisiez pas la vaisselle non plus, c'est
non,
ça?
Pourquoi?
Bah parce qu'elle.
Oui, c'est ça. Oui, je pensais plus à des scènes un peu, vous voyez, d'enjeux de pouvoir, quoi, entre les parents et les enfants. Véronique Gallo, elle produit également un programme court pour Teva qui s'appelle Vie de mère, qui est disponible sur YouTube également. Et je vous le recommande vraiment. Quel genre de papa vous êtes, David Fuitminos?
Un papa très présent. Un
papa trop, ça veut dire trop présent, ça.
Voilà. Non, mais voilà. Non, c'est,
ça veut
c'est...
dire quoi, excessif?
Hein?
Vous les pister? Non, j'ai...
Oui, je pense qu'ils n'auront aucune autonomie jusqu'à 25 ans.
Et ils ont quel âge?
16 et 4.
Oh mon Dieu. Alors, 16 ans, ça va bientôt arriver.
Oui, non, mais je dis ça pour rire. Hein. Il, oui. il vit sa vie en stage de tennis, là. Il est très heureux.
Je suis sûre que vous êtes hyper cool, en fait.
Assez, oui.
Ouais. Ouais, pas très, ouais. Pas très sévère, en fait. Ouais. Non ? On est d'accord ?
Oui.
D'accord.
On est d'accord ?
David Fuitminos, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si vous lisez la presse féminine, mais Elsa Lévy va vous offrir une séance de rattrapage. Mais avant, je vous l'avais promis, Vanille chante Si tu suivais le soleil, et c'est sur Europe 1. Vanille sur Europe 1, on vous l'avait promis. Merci, Vanille. Dans un instant, Elsa Lévy vient nous rapporter ce qu'elle a lu dans la presse féminine. À tout de suite pour la suite du Club de l'été.
9h, 11h, le Club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Et il est 9h53. Sur
Bravo!
Bravo.
Merci.
Voilà, merci. Pour ceux qui avaient loupé l'épisode précédent, c'est-à-dire il y a quelques minutes, j'ai pensé qu'on était 23h. Qu'il était 23h, mais non. Jusqu'à 11h, c'est votre Club de l'été avec notre invité, l'écrivain David Fuitminos, qui se moque de moi, mais dont on vous recommande quand même le dernier roman de Sœur édité chez Gallimard. Et on reçoit Sœur Elsa Lévy. Bonjour Elsa.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va bien.
Est-ce que la presse féminine vous a de nouveau inspirée?
Absolument. C'est juste que quand j'ai appris qu'on recevait David Fuitminos, j'ai voulu élever un peu le style littéraire de cette chronique et sortir des sentiers battus, à savoir régime, détox. Alors j'étais contente de tomber sur le magazine Pleine Vie qui, dans son numéro de juillet, propose 2 polars captivants pour l'été. Je me suis dit, je suis sauvée. Et j'ai commencé à lire la première nouvelle, l'histoire de Régine. Alors déjà, le prénom légèrement trop proche à mon goût du mot régime. Mais bon, ils auraient pu se creuser un peu. Donc Régine qui vit dans le Berry et qui a perdu son mari et le goût de la vie. Voilà, elle aurait des apparitions de son mari. Sauf qu'au bout de quelques paragraphes, à peine, je lis « Régine, en vivant près de Philippe, a appris la gourmandise et le goût des bonnes choses. Elle a de la chance de ne pas prendre de poids au moindre écart et c'est si bon de manger. » Bon, je me suis arrêtée là parce qu'on n'en sortira pas. Les histoires de Régine au régime, du coup... Je vais faire beaucoup plus simple et vous parler crème solaire.
Ah, il y en a partout, voilà. Il y en a partout, des crèmes solaires dans toute la presse féminine, on est d'accord.
Ça peut vous intéresser.
Ça me passionne.
Alors, c'est sujet... plutôt quel indice?
50.
Oui, 50.
C'est 50. Ma vie, la crème solaire.
Après le sèche-cheveux, non? À ce sujet, j'ai lu un bon millier d'articles qui nous expliquent quelle crème choisir, quand l'appliquer, puis comment. Alors, avec de la délicatesse, j'imagine. Ce sera le seul clin d'œil littéraire. Alors, j'ai fait le tri. Grâce à Avantage, je fais ami-ami avec le soleil. Et surtout, grâce à Cosmopolitan, j'apprends comment bronzer en 2019. Car en
c'est
effet,
pas pareil qu'en 2018.
Voilà, d'une année sur deux, ça peut changer.
C'est jamais pareil.
On le sait, le soleil peut être dangereux. Heureusement, le magazine Maxi nous donne quand même 7 bonnes raisons de profiter du soleil. Donc parmi les avantages, je lis que le soleil accélère le vieillissement cellulaire, la formation des rides, l'apparition des taches de soleil. Il renforce la coupe rose et favorise le cancer de la peau.
D'accord.
Voilà, donc là, vraiment que de bonnes raisons d'en profiter. J'ai hâte. Bref, j'ai tout lu à propos des ravages du soleil et des bienfaits des crèmes solaires. Et finalement, c'est Cosmopolitan et son article « On démêle le vrai du faux » qui résume le mieux tout l'enjeu avec ce gros encart, je cite « Sans crème protectrice, une peau claire prend un coup de soleil en 10 minutes, sous un indice 15 en 3 heures. » D'un coup, je comprends mieux tout l'intérêt de mettre la
crème. Indice 15 déjà, David Fonkinos.
Oui, c'est très léger ça.
Oui, vous avez la peau blanche quand même, si je peux me permettre.
Moi, je conseille plutôt un indice 70.
C'est vrai qu'il n'existe pas encore.
C'est pour le soleil 2020, ça.
Exactement. C'est bronzant
2020, oui. Ça dépend de où on va bronzer aussi.
Oui, exactement.
Oui. Non, la vraie solution se trouve dans Féminin Santé et son article « Aller sans danger ». Alors, comment être allé sans danger? Eh bien, c'est très simple, on mise sur l'auto-bronzant.
Ah, ah oui, forcément, oui.
Sauf que je lisais sur le site Oh My Mag, traduction Oh Mon Magazine, que l'auto-bronzant attaque la peau et l'inhalation des ingrédients actifs favorise le cancer, l'asthme et autres maladies pulmonaires.
On va tous mourir.
Bref, on est mal, on va tous mourir.
Très sympa, votre chronique.
Oui, ouais, c'est lundi, c'est... Allez, c'est lundi. Non, c'est les boules de ne pas être en vacances, peut-être, je ne sais pas. En revanche, ce qu'on nous recommande à l'unanimité, c'est l'ombre. Alors, pour sauver ma peau, j'ai pensé ombre, arbre, donc campagne, ou country, pour les Américains.
C'est juste pour mettre ça.
C'est juste
je
pour
connais les
polluer
techniques.
Les oreilles.
C'est juste
c'est
pour
moche
mettre
que
ça.
En fait, elles
allaient. C'est moi-même. Et donc, j'ai trouvé l'article « Zen à la ferme » dans Madame Figaro. Bon, j'ai d'abord cru à une fiction littéraire avec pour personnage principal Zen, le cousin de Martine, Zen à la ferme, et puis les histoires de Zen à la plage, Zen aux eaux, etc. Mais non, là, on nous présente quelques spots détente nichés en pleine nature, en Corse, en Angleterre et un en Bretagne, qui a l'air top avec pour panorama le Mont Saint-Michel. On nous prévient, ici, pas de Wi-Fi, pas de portable, tout est fait pour vous reconnecter à la Terre et les chambres sont à partir de 275 €.
Ah oui.
Bon, après, je trouve ça un peu cher si on n'a même pas le Wi-Fi. Oui. Mais bon, je comprends le concept, le Wi-Fi, c'est pas bon pour la santé, pas plus que les UVA, du reste. Et là, ça ne s'arrête pas là. Et là, oui, j'ai un début de dramaturgie pour un polar. Je lisais sur auféminin.com que passer trop de temps devant la télé réduit notre espérance de vie d'un an et demi. Le stress au travail l'a fait baisser de 33 ans. Si cette étude est viable, j'en déduis qu'on est à la retraite dès qu'on entre dans la vie active.
Oui.
Toujours selon le site, une soirée barbecue reviendra à fumer 200 000 cigarettes. À bon endroit.
200 000 cigarettes.
Oui. Je ne sais pas si l'étude est viable, mais c'est sûr.
On en a donc fumé 1 million la semaine dernière.
Trop dormir peut donner du diabète et réduire l'espérance de vie. La pollution, les pizzas, les bonbons et l'avion aussi. Sans oublier que fumer-tu, boire-tu et prendre le soleil également. Bref, je m'arrête là car je comprends que si je cumule toute l'espérance de vie que je perds en vivant, eh ben en fait, je crois que j'aurais même pas dû naître.
Merci beaucoup. Merci Elsa pour cette revue de presse. David
Chronique dépression.
Dépression. David Fonkinos, vous êtes un homme, mais avec le sourire évidemment. Vous êtes un homme de goût, enfin jusqu'à l'an dernier, puisque vous aviez décidé de voyager vers Nice. On va dans le Finistère, tant pis. Mais ce sera tout de suite sur Europe 1 dans quelques minutes.
Respirez, c'est l'été.
On est bien sur Europe 1.
Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
C'est la deuxième heure de ce club de l'été d'Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager des bons plans, des idées de sortie et quelques recettes évidemment. Car que serait ce club sans les astuces culinaires d'Olivier Pouls? N'hésitez pas à réagir sur Twitter via le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour David Fonkinos qui est notre invité. Lise Pressac, ce club n'est rien non plus sans vos excursions en espadrille notamment.
Oui, en espadrille sur la presqu'île de Crozon pour aller voir
le décor
incroyable, les minéraux notamment.
Et puis du roman de David Fonkinos, le mystère d'Henri Pic qu'on vous recommande également. Olivier, quel produit a retenu votre attention? Je parle d'un produit gustatif.
Eh bien, nous allons tout à l'heure déguster des algues.
Des algues.
C'est assez surprenant, mais oui. Ça se mange.
Surtout venant de votre part.
Hein. Et puis, nous allons reparler des œufs, puisque on est revenu, on m'a reposé une question concernant les œufs et un vrai faux.
Oui.
Est-ce que les œufs, il faut les conserver au frigo? Oui ou non? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous.
Oui, ne donnez pas la réponse tout de suite. On va y répondre tout à l'heure. Exactement. David Fonkinos, normalement, à ce moment-là de l'émission, on monte à bord de notre machine à remonter le temps en musique. Mais on avait déjà fait ça avec vous l'an dernier. Donc, je me suis dit, on va un petit peu changer. Avec Robin Bernot qui réalise cette émission, on a préféré vous préparer un petit montage de chansons qui évoquent le thème de votre dernier roman, Frères et Sœurs, et essayez de trouver les quatre interprètes qui se cachent derrière ça.
Là.
Allez-y, l'espresso.
Belle oncle Saul.
Oui.
sais-tu,
c'est le forestier.
Merci.
Ce que nous aurions fait ensemble.
Voilà. Alors voilà. Donc,
bon, c'est une machine. À l'avance ou quoi?
Non. David Fonkin, je dois vous expliquer à la première seconde d'une musique d'IAM, Lise Pressac se transforme. C'est un peu comme le film dans les Gremlins, quoi. Il y a un truc qui se passe.
Mais là,
bizarre.
C'était pas que IAM.
Non, c'était
pas toutes les musiques. J'ai même pas le temps de les entendre.
Voilà. On a entendu L'âme, Petite Sœur, on a entendu Ben l'Oncle Soul, on a entendu Maxime le Forestier. J'adore cette chanson. Et IAM, oui, Lise Pressac.
C'est pas moi qui ai fait le blind test en
non,
même temps.
Non. Mais c'était trop facile pour vous. David Fonkinos, comment vous définiriez la relation que vous avez avec votre frère, avec qui vous avez notamment réalisé
Elle est vraiment, elle est très complémentaire, elle est excellente, elle est vraiment. Je trouve que c'est très très simple. Parfois entre frères ou entre sœurs, on peut se dire les choses. Voilà, il y a pas de vexation, il y a une simplicité. Bah moi, je trouve que entre nous, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, et puis surtout, je veux dire. Il a 6 ans de plus que moi. C'est vrai que mon frère était très important. Il m'a aussi beaucoup initié au cinéma. Et c'est vrai qu'on a des compétences extrêmement complémentaires. Donc sur un plateau, c'est magnifique. Et on adore se retrouver, travailler ensemble. Et c'est pas tout le temps, puisque entre temps, il a plein de projets. Là, il a mis en scène un spectacle au rond-point noir avec Tania de Montaigne. Moi, j'écris des romans. Et c'est vrai qu'on est heureux de se retrouver.
Alors la famille est un élément important dans votre biographie. Vous venez de signer un très beau texte dans l'hebdomadaire Le 1 que je vous recommande. C'est un numéro dont la thématique est la vieillesse et dépendance. Et vous parlez de votre grand-mère, notamment de la mémoire. Et ça s'appelle Une porte entrouverte, l'intitulé de cet article. C'est absolument magnifique. Et vous dites notamment, vous parlez des personnes âgées qui sont en maison de retraite. Et vous avez une phrase absolument magnifique qui dit « La beauté devrait être le décor ultime de toute vie ». C'est quoi la beauté pour vous, David Fonkinos, quand vous écrivez cette phrase?
Mais c'est vrai que j'ai écrit un roman qui s'appelle « Vers la beauté ». Et c'est vrai que chacun a sa propre définition de la beauté. Mais en tout cas, quand j'avais écrit mon roman « Les souvenirs », qui parlait justement des maisons de retraite, du rapport au vieillissement, il y avait eu le film avec Annie Cordy que Jean-Paul Rouve avait réalisé. C'est vrai que j'étais un peu... parfois, je m'amusais de certaines conditions avec parfois des tableaux dans les maisons de retraite qui étaient... On se demandait d'où sortaient ces tableaux. Et d'ailleurs, dans le livre, ils allaient essayer de retrouver le peintre qui avait pu peindre une telle croûte. Et il y a quelque chose qui est parfois un peu triste d'être comme ça, accompagné par forcément par ce qui représente la beauté ou l'esthétique ou des choses qui peuvent nous accompagner dans les dernières années de notre vie.
Alors là, vous parlez de la porte entrouverte parce que c'est dans une porte entrouverte que vous avez vu une jolie scène, un homme et une femme en train de s'embrasser, en fait, dans une maison de retraite.
Oui, ça m'a toujours... c'est vrai que moi, j'ai un rapport très, 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 très important à la vieillesse, parce que j'étais très, très proche de mes grands-parents. Je suis allé beaucoup en maison de retraite. C'est ce que je racontais dans les souvenirs. Et c'est vrai que ce texte qu'on m'a demandé pour le 1, j'ai tout de suite pensé à cette image de ce couple qui flirtait. Deux octogénaires comme ça, discrètement, comme des adolescents qui n'avaient pas envie de se faire piquer. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est une question qui m'obsède. Jusqu'où va la sensualité, le désir, comment évolue le désir. Et il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une image qui a bouleversé tout le monde de ce couple qui s'est retrouvé 50 ans ou 60 ans après.
Après le débarquement.
Et on les voit se regarder, s'émerveiller, s'enlacer. Et je pense que ça bouleverse tout le monde parce que ça fait écho à l'idée que le sentiment ne s'arrête jamais.
Merci beaucoup David Fonkinos. Vous allez nous proposer de quitter Paris pour rejoindre non pas Nice mais la pointe bretonne. Et c'est pas mal comme projet quand même. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Aïe, ils sont tous prêts.
Silence.
Et maintenant, Lise, elle va danser. Club de l'été sur Europe 1.
Eva Rock.
Et nous sommes toujours en direct et il est 10h14 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité David Fonkinos. David Fonkinos, le Finistère en une odeur, ce serait laquelle?
Ah, le vent marin.
D'accord.
C'est une odeur, ça? L'odeur marine.
Comme vous êtes écrivain, on peut dire tout ce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez.
Oui, tout à fait. Je m'y attendais pas à cette question.
Oui, ça ramène les effluves d'iode.
Oui,
ça
sent.
Merci, Olivier. Voilà.
Qui sent le vent.
Ma réponse était très, très bonne.
Solidarité masculine. Avant de rejoindre la presqu'île du Crozon, c'est l'heure du journal de la culture avec vous, Lise Pressac. Et on va commencer par une découverte archéologique à Poitiers.
Oui, à quelques mètres de l'église Notre-Dame-la-Grande, en plein cœur de la ville.
C'est ici qu'a été découverte une grande mosaïque romaine de près de 25 mètres carrés, constituée de 500 000 tesselles. Ça paraît tout de suite très impressionnant avec la musique. Une mosaïque blanche et noire qui daterait du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors les pierres autour de l'œuf laissent penser qu'elle constituait le sol d'un péristyle, édifice grec puis romain entouré de colonnes. Cela faisait plus d'un mois qu'une équipe de chercheurs fouillait une zone de 230 mètres carrés proche du jardin des droits de l'homme à Poitiers. Une procédure obligatoire avant de futurs travaux de modernisation de transport public entrepris par la ville. Et ce n'est pas la première fois que des vestiges sont découverts sous les rues de la ville qui s'appelait Limonum à l'époque gallo-romaine. Une datation au carbone 14 permettra de savoir si cette mosaïque est l'un des plus anciens vestiges de la ville.
Et du coup, les travaux vont prendre 3 ans.
Voilà, c'est ça aussi.
Ils vont s'apercevoir que pas du tout avec le carbone 14, c'était le magasin. Je plaisante. Archéologie toujours, mais au Caire cette fois-ci.
Oui, où deux pyramides ont été de nouveau ouvertes au public ce week-end. Elles étaient fermées depuis 1965. Ce n'est pas à Gizeh, mais sur le site de Darchour au sud du Caire. Plusieurs sarcophages en pierre, argile et bois ont été découverts à proximité du site. Certains contiennent même des momies en bon état de conservation.
Et on poursuit ce journal de la culture par de la musique.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout.
Qu'est-ce que c'est bien d'entendre la voix de Renaud.
Ouais, une bonne nouvelle pour vous, Eva, et pour tous les fans de Renaud. Dans une interview accordée ce week-end aux Parisiens, le chanteur de 67 ans annonce la sortie d'un prochain album pour l'automne. Il s'appellera Les Mômes et les Enfants d'abord et comprendra 12 titres. Il y a peu d'humour et plein de gros mots, confie Renaud, qui précise que c'est plus un album sur l'enfance qu'un album pour enfants. Il sortira donc un nouvel album cet automne, Renaud, mais il n'a pas l'intention de refaire une tournée pour le moment.
Enfin, on termine ce journal. Écoutez bien David Funkinos avec un festival qui se déroule à Nice.
Bah oui, moi c'est contractuel, hein, David. Je dois parler de Nice au moins une fois par jour dans mes chroniques pour le festival Nice Classic Live. C'est la deuxième édition de ce festival qui se passe dans un cadre de rêve, le cloître du monastère de Cimiez. Je l'ai bien dit, Eva.
Oui, vous l'avez
c'est
bien
ça.
Dit.
Le festival commence ce soir par une rencontre entre l'Argentine et l'Italie. Et au programme, donc, il y aura les 4 saisons de Buenos Aires, d'Astor Piazzolla et les célébrissimes 4 saisons de Vivaldi. Le tout interprété par Marianne Piketty et l'ensemble Le Concert Idéal. Le festival mettra également à l'honneur Berlioz, Beethoven, Brahms et Bach. Nice Classic Live, c'est à partir de ce soir et jusqu'au 9 août dans le cloître du monastère de Cimiez.
Qu'est-ce que vous écoutez comme musique en ce moment, David Funkinos ?
J'écoute toujours beaucoup les Beatles.
C'est vrai ?
Vous savez pas du tout. Ouais, beaucoup.
Vous décrochez pas,
ouais. Ouais, non. Gainsbourg, Souchon. On parlait tout à l'heure de France Gall. Énormément France Gall et Michel Berger.
Moi, c'est bien, c'est les fondamentaux en même temps, de la chanson française. Hein. Avant de partir vers la pointe bretonne, je vous propose une parenthèse musicale avec la formation Bon Entendeur. Ils ont l'habitude de reprendre d'anciens titres et la preuve avec La Rua Madureira de Nino Ferrer. Bon Entendeur sur Europe 1 et on ne vous dit pas encore salut parce que nous avons encore quelques infos pour vous. Voilà, la personne qui a suivi. À tout
Mais
de suite.
Mais si, très bonne vanne.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Il est 10h22, je suis très bien exercée pour dire l'heure maintenant. Et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été. Vous êtes les invités de ce club, vous êtes les bienvenus tous les matins de 9h à 11h. On s'occupe de tout, de vous. Vous voulez de la culture, des bons plans balades, des recettes faciles à faire, un invité drôle et intelligent, bien c'est ici qu'il faut être.
Un all inclusive en fait.
Un all inclusive, exactement.
Gratuit en plus.
Grâce à David Funkinos, départ pour la presqu'île de Crozon. David, c'était le décor de votre roman, Le mystère d'Henri Pic. Et Lise, vous nous faites découvrir quel lieu précisément dans cette presqu'île.
On va découvrir la nature, on va aller se balader, on va aussi découvrir les minéraux. On va voir si vous connaissez bien David. Nous sommes en ligne avec Yves Cyril, qui est géologue, organisateur de randonnées et directeur de la Maison des minéraux. Bonjour Yves.
Bonjour Lise. Alors, bonjour Eva.
Bonjour à tous.
Bonjour David et Olivier.
Bonjour.
Alors quand on randonne sur les sentiers côtiers, qu'est-ce qu'on voit ? Décrivez-nous un petit peu ces paysages.
Ben, d'abord, je vais vous faire quitter votre bocal de studio, là,
avec
le grand air.
Avec
et David, tout à l'heure, a parlé, et il a tout dit, il a dit que la presqu'île était belle, et c'est bien résumé. Alors, je vous amène au Cap de la Chèvre, sur un site emblématique qui vous permet d'embrasser un territoire assez fantastique. C'est le domaine du parc naturel marin d'Iroise. C'est un site sur une réserve naturelle géologique. Et c'est un petit peu de la confidentialité, puisqu'en fait, le décor, il est authentique, il est naturel. Donc, c'est une immersion nature, une séquence, en fait, avec un décor assez minéral, somme toute, hein, avec des roches qui sont là et qui sont datées à 475 millions d'années, qui sont d'anciens dépôts de sable marin. Et quand on est en bas des falaises, où se trouve un petit cordon de galets, une plage de sable fin, de temps en temps, deux locataires pratiquement en permanence, c'est-à-dire des phoques, vous vous demandez où vous êtes, mais si vous êtes en Bretagne, plus précisément en presqu'île de Crozon.
Alors, on l'entend, vous êtes aussi géologue et directeur de la Maison des minéraux. Qu'est-ce qu'on peut voir dans votre musée ? dans cette maison des minéraux?
La maison des minéraux est en presqu'île parce qu'en fait, c'est une région qui est connue sur la scène européenne pour sa géologie. C'est un site de référence en Europe. On présente donc la géologie des falaises de la presqu'île. On présente aussi la minéralogie du massif armoricain. Des expositions temporaires avec le vecteur artistique. En ce moment, c'est un photographe qui a investi l'une de nos salles d'exposition. Et puis, nous avons également une grosse collection de minéraux fluorescents. C'est-à-dire que quand on éclaire certains minéraux aux ultraviolets, ils réagissent et changent de couleur. Et là, la réaction du public, c'est magique.
Ah oui, c'est un effet waouh, comme on dit, c'est ça?
Absolument. Et puis également, nos visiteurs jouent dans le sable à la Maison des Minéraux, parce qu'en fait, on a un bac à sable numérique. Alors, tout le monde s'amuse dans cet outil interactif. Et après, une petite déambulation dans notre jardin insolite, THE, comme lithos, la pierre, où nous avons des gros blocs de roches qui ont été disposés par une scénographe, mis en scène par une scénographe. Et ces blocs de roches nous ont été donnés par les carriers de Bretagne. Donc, c'est un aspect, une interface régionale qui permet de montrer qu'il y a du caillou partout, finalement, et qu'on l'utilise quotidiennement sans s'en rendre compte.
Yves Cyril, si on ressort de la maison des minéraux pour se retrouver à l'extérieur, quelle est l'odeur qui domine ce coin de terre pour vous?
Alors, moi je garderai le parfum de noix de coco de la fleur d'Ajon.
D'accord.
C'est un petit peu l'exotisme. Il y a aussi, bien sûr, comme disait tout à l'heure David, les embruns.
Bien sûr.
C'est évident, l'ambiance, elle est maritime. C'est aussi le petit clin d'œil sur la gastronomie.
On va en parler. Oui.
Tout à l'heure, vous en parlerez avec les algues, c'est sûr. Mais on a plein de parfums en fait sur cette presqu'île de Crozon.
Pour vous, c'est le plus bel endroit du monde?
J'irai pas jusqu'à être aussi chauvin que cela, mais c'est un très très bel endroit.
C'est un très bel
endroit. Et puis avec un paysage renouvelé à chaque fois, la couleur change, la mer change, ça fait aussi changer le paysage à chaque saison, voire à chaque moment de la journée.
Oui, alors vous voyez, là je me retourne et je vois la mer de mon bureau de très très loin.
Ah bah, oui.
C'est bleu comme dans votre studio. Vous pouvez revenir sur ce site-là en plein hiver où là vous serez bouleversé par les forces, les énergies de la nature, par les grosses tempêtes. C'est assez prenant comme spectacle. Et puis si vous faites le tour de la presqu'île de Crozon, vous découvrirez des paysages sans cesse renouvelés et différents.
Ça donne
et ça, c'est la géologie qui est pour bonne partie responsable de cette grande richesse paysagère.
On pourrait changer de bureau pour...
Oui, on attend nos bureaux, on vous prend le studio et on vient chez vous.
Hein. On échange les
bureaux. Je vous invite à venir au Cap faire un petit tour.
Et dites-moi, j'ai une dernière question, Yves Cyril, il y a des phoques toute l'année, tout le temps, on peut les voir tout le temps?
Alors, il y a une colonie de phoques assez importante dans l'archipel Molène-Ouessant. Et puis donc, à partir de cette colonie, les phoques ont colonisé un petit peu les littoraux. Donc, on les voit très, très, très régulièrement sur nos côtes en presqu'île, effectivement.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Yves-Cyril, d'avoir été en direct avec nous. On a des bruitages de goélands ou de phoques, je ne sais pas. ça ressemble à rien, vos bruitages.
C'est un phoque.
C'est un phoque.
D'accord. Vous validez que c'était un phoque, ce qu'on vient d'entendre, Yves-Cyril?
C'est limite, oui. Mais c'est plutôt une otarie, ça.
Hein. Oui,
c'est,
voilà.
Mais nous, quand on les voit, on les entend pas. Non. On les regarde et
c'est bien.
On se fait face.
Voilà. Notre réalisateur, il est un peu jeune, vous savez, il fait pas trop la différence entre une otarie et un phoque. On va lui apprendre ça. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes géologue, organisateur de randonnées et directeur de la Maison des Minéraux. Moi, j'y étais, je sais pas vous, les amis, mais ça donne très envie.
Complètement.
Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Élise, vous postez tout ça sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. On va aller déguster quelques algues maintenant. Ça sera plutôt dans quelques minutes et toujours en direct sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac et Olivier Pouls, notre invité et l'écrivain et réalisateur David Funkinos. David, j'ai un doute sur le fait que vous soyez vraiment gourmand, parce que quand on vous demande votre Madeleine de Proust, vous nous répondez le hachis parmentier surgelé. C'est quoi cette histoire?
Oui, mais écoutez, c'est une Madeleine de Proust. Hein. C'est vrai que mes parents étaient beaucoup en déplacement. Et c'est vrai que du coup, je me souviens d'avoir adoré le hachis parmentier fin 10. Ça ne veut pas dire que c'est toute ma vie.
D'accord.
Et que je suis quand même un gourmet et j'aime les bonnes
D'accord.
choses.
Mais on a tous nos petits
travers. La question, c'était une Madeleine de Proust.
Oui,
voilà,
c'est vrai.
Je me rappelle,
c'est vrai.
À 7-8 ans, je me souviens de soirées seules où je mettais au four le hachis parmentier.
Mais vous avez arrêté là? ou vous continuez
à manger? Une Madeleine de Proust, on a envie d'y retourner de temps en temps, voilà, ça nous rappelle
quand
des piqûres.
Olivier Pousse, qui est quand même la personne la plus épicurienne.
Ah, déjà, il me regarde, maintenant il me regarde méchamment.
Je ne me permettrai pas.
Pas du tout, on est d'accord qu'Olivier Pousse, c'est vraiment l'épicurien, voilà, si on devait avoir une définition de l'épicurisme, c'est Olivier Pousse. Quelle est votre Madeleine de Proust? Allez-y, bon, non mais dites-le.
Non mais je vais vous le dire.
Bah oui.
Bon, lui c'était les hachis parmentiers, voilà. Findus, bah moi c'est les raviolis en boîte.
Voilà. Eh bien voilà.
Et non, mais ça n'a rien à manger.
Bah alors, ça, il m'arrive effectivement de pouvoir encore en manger parce que, comme vous le dites, c'est pas que ça me plaît plus que ça, mais ça fait appel à des souvenirs, à une plongée dans l'enfance.
C'est ça, une Madeleine de Proust. Ouais.
Voilà, c'est ça, un petit côté un peu rassurant et de temps en temps une petite boîte de raviolis devant la télé. C'est pas mal.
C'est horrible. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un produit plus naturel et plus original et qui sent un peu ces saveurs dont on vient de parler et ces odeurs dont on vient de parler de la presqu'île du Crozon?
Oui, quelque chose qui va peut-être en surprendre quelques-uns, ce sont les algues. Mais les algues comestibles, pas les abominables algues vertes qui malheureusement polluent un peu nos plages et certains endroits en ce moment. Non, les vraies algues que l'on peut manger et qui ont un vrai intérêt, non seulement gustatif, mais aussi un intérêt pour notre santé. C'est très bon de manger de l'algue. Et je vous emmène dans le Finistère Sud rencontrer un personnage. Elle s'appelle Scarlett Lecor, elle est en ligne avec nous. Et c'est une algocultrice.
Bonjour Scarlett.
Bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour tout le monde.
Est-ce que vous avez les pieds dans l'eau?
Là, je viens de quitter à l'instant les bottes.
Ah. Et alors, la récolte d'algues est bonne ce matin?
Alors, ce matin, c'était le poisson. Au niveau des algues, il n'y avait pas grand-chose parce que le temps est chaud. Et les algues, c'est comme dans la nature, sur la terre, eh ben, elles ont fini leur cycle. Hein. C'est au printemps, la pleine saison, pour avoir des super algues. Et puis après, on les stocke. Et puis, toute l'année, on a de l'algue fraîche comme ça qui est stockée. Moi, je les travaille au sel sec. Le principe de la morue salée ou du jambon cru sec, séché.
Alors, quel type d'algues vous ramassez? Parce que n'importe qui ne peut pas aller ramasser des algues sur la plage. Il y a quand même des variétés qui sont comestibles et d'autres qui ne le sont pas.
Oui, alors tout à fait. Il y a des algues. En France, on n'a que 15 d'autorisés à l'alimentation humaine. Dans le monde, à peu près 120 espèces qui se mangent. Mais il n'y a aucune algue nocive ni aucune algue polluée sur notre planète. En macro-algues, celles que nous regardons, celles que nous voyons à l'œil nu. Elles sont n'importe qui, même si vous mâchouillez un morceau, vous n'avez pas besoin de courir nulle part, vous ne serez jamais empoisonné.
D'accord.
Mais en revanche, gustativement, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Alors qu'il y a des algues qui ont vraiment du goût.
C'est pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est que vous n'allez pas vous régaler.
Oui, voilà.
Parce qu'elles vont être trop riches peut-être de choses, trop dures, trop coriaces. Alors celles que l'on mange, elles sont moelleuses, elles sont onctueuses, elles ont des saveurs. C'est l'océan dans l'assiette, c'est vraiment quelque chose de superbe, quoi.
Alors, on me dit que, par exemple, vous, le petit déjeuner le matin, c'est pas tartine, beurre, confiture, mais c'est tartine avec tartare d'algues.
Voilà, tout à fait. Mon petit déjeuner le matin, depuis 30 ans, ce sont des algues. C'est un mélange de 5 algues avec du vinaigre et de l'huile d'olive. Hein. Donc, je mange tous les matins à mon déjeuner.
Scarlett Lecor, comment vous êtes arrivée à déguster et à manger des algues?
Oh, ça s'est fait tout à fait par... les algues, ça avait toujours été une passion parce que depuis que je sais marcher, j'ai accompagné mes parents pour récolter les algues dès qu'il y avait des vacances scolaires, les jours de repos, le jeudi, tout ça, parce que mes parents étaient eux-mêmes déjà goémoniers, hein, ce qu'on appelle des goémoniers, mais ils travaillaient l'algue industrielle. Et là, avec l'évolution qu'il y avait dans le monde, cette recherche d'aliments sains, eh ben, j'ai regardé, puis mes voyages au Japon, j'ai découvert que les algues, ça se mangeait et puis que c'était bon. Voilà. Et donc après, mais j'ai pas travaillé de façon japonaise, si vous voulez. J'ai travaillé vraiment pour adapter à notre palais, à nous, de Français et d'Européens, parce qu'on ne va pas manger japonais tous les jours, tous comme nous sommes.
Et oui.
On aime bien manger quelque chose qu'on va apprécier, qu'on va déguster, mais qui rappelle quand même qu'il n'y a pas quelque chose complètement inconnu pour nous, parce que l'inconnu nous fait peur.
Donnez-nous une petite recette, tiens.
Ah ben, on va se faire une petite salade avec le temps frais qu'il y a actuellement. Là, on va se faire une petite salade de carottes râpées, tout fraîche râpées, là, du jardin. Hein, ce serait bien encore mieux.
Bien oui.
Bio, hein, avec de la dulce en paillettes, mettre des dulces séchées en paillettes dedans. Et une petite vinaigrette avec un petit peu de citron, ce sera formidable. Un peu d'huile d'olive, un peu de citron. Et vous allez avoir les papilles qui vont se réjouir.
Alors, non seulement c'est bon pour les papilles, mais c'est excellent pour la santé.
Oui, c'est excellent pour la santé.
Voilà, c'est excellent pour la santé, mais moi j'ai dit ça suffisait pas pour la vente. Pour que vous ayez envie d'en manger, il faut aussi que ce soit bon.
Ben oui.
Il faut que l'on ait le plaisir de manger.
Ça
moi,
vous dit,
c'est toute la différence, c'est ça. C'est d'abord ce plaisir, ce réveil des papilles. Par là, quand tout à l'heure, j'ai un groupe d'enfants qui vient me voir. Quand je vais leur faire goûter, de voir, si vous voulez, les yeux qui vont commencer à pétiller.
Ah, c'est génial. Oui.
Et puis le sourire qui va venir sur les lèvres après et tout. Pour moi, c'est la meilleure des récompenses.
David Fonkinos, est-ce que vous êtes convaincu et est-ce que vous allez vous mettre aux algues ?
Oui, ça m'a vraiment donné envie.
Mais moi aussi,
j'imaginais
j'ai très
des pâtes aux algues.
Des pâtes aux algues, ouais. Ça doit être hyper bon. Ouais.
Et il faut savoir que Scarlett.
Ça change, quoi. C'est
ben oui.
L'océan.
Et il faut savoir que Scarlett, ouais. Vous organisez pendant l'été, pendant les vacances, des ateliers dégustation et découverte des algues pour les touristes.
Pas que pour les touristes, pour tous les
pour
gens.
Pour tous les gens, venir.
Bien sûr.
Ouais. Et même des fois sur Paris, s'il y a des personnes qui me demandent, je viens chez elles leur expliquer, leur montrer. Leur
algues à domicile.
Ah, vous nous faites signe. Hein,
même
vous nous
sur
faites
Paris,
signe.
Sur Lyon, sur Marseille, partout en France.
Et ben,
partout
merci.
Où je me déplace.
Merci beaucoup, Scarlett Le Gors, ça donne très envie. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Olivier, on reviendra sur votre fact-checking du jour à propos des œufs dans quelques secondes. On va poursuivre notre programmation du jour. Après la presqu'île du Crozon, Lise vous propose de visiter 3 maisons d'artistes. A tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend.
Avec le Club de l'été sur Europe 1.
Le Club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les deux experts Olivier Pouls, Élise Pressac et David Fonkinos, notre invité, écrivain et réalisateur. Olivier Pouls vient de me montrer une photo absolument
indécente.
Il était en train de manger une boîte de raviolis hier soir. Vous savez, ces raviolis en boîte, alors que lui qui nous prône les bons produits du quotidien, je suis déçue.
Vous avez ruiné mon été.
Ouais. Élise Pressac, ici présente, a trouvé 3 maisons d'artistes à visiter et on commence notre tour des maisons d'artistes à Sur-mer, hein.
Pour aller visiter la maison de Renoir.
Mais oui.
Elle se trouve au cœur d'un domaine planté d'oliviers et d'agrumes avec un magnifique panorama qui s'étend jusqu'au Cap d'Antibes. C'est ici à Cagnes-sur-Mer qu'Auguste Renoir passa les 12 dernières années de sa vie. Alors dans cette maison devenue musée, vous verrez 15 toiles originales, 30 sculptures, le mobilier et l'atelier de l'artiste impressionniste. Le lieu a été complètement rénové il y a 6 ans avec l'ouverture de nouveaux espaces, notamment un ensemble de 17 sculptures en plâtre. Il y a 2 nouvelles toiles originales ainsi que des archives intimes. Alors sans même visiter le musée, aller à la maison de Renoir ne serait-ce que pour les jardins très agréables. Oui. Ils sont ouverts sans interruption de 10h à 18h tout l'été. La visite du musée Renoir coûte 6€ pour les adultes. L'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans et les cagnois.
Et oui, il y a plein d'oliviers, c'est absolument magnifique.
C'est votre jardin,
c'est
donc,
vrai. Plein c'est un d'oliviers, très beau
jardin.
Magnifique.
Oui, plein d'oliviers, comme vous, c'est vrai. On part maintenant à Granville, découvrir la villa Dior.
En Normandie, non loin du Mont-Saint-Michel, une maison rose qui se dresse sur une falaise face aux îles anglo-normandes. Construite à la fin du 19e siècle, la villa Les Rombes doit son nom au terme de marine qui désigne les 32 division de la Rose des Vents. C'est un symbole qu'on retrouve sur une mosaïque ornant le sol d'une des entrées de la maison. Les parents de Christian Dior ont acheté cette villa en 1906. C'est un lieu qui a particulièrement marqué Christian Dior. « Ma vie, mon style doivent presque tout à la situation de cette maison et à son architecture », a-t-il écrit dans son autobiographie. La villa familiale est mise en vente en 1932 après que le père industriel est ruiné par la crise. Elle est achetée par la ville de Granville qui ouvrira le jardin au public dès 1938. Alors on y trouve une pergola avec miroir d'eau et une roseraie qui a été restaurée et agrandie en 2002. Le musée Christian Dior à Granville est ouvert tous les jours de 10h à 18h30. L'entrée coûte 9€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et jusqu'au 17 novembre, il y a une exposition Grâce de Monaco, princesse en Dior. Et le site du musée précise qu'en raison d'une forte affluence, un temps d'attente est à prévoir. Le musée ne peut accueillir que 50 personnes maximum.
Ah bon, si on le sait, au moins on peut prévoir Exactement. Et organiser sa journée. Enfin, on termine notre tour de France des maisons d'artistes par le musée Rodin à Meudon.
Sur les hauteurs de cette ville des Hauts-de-Seine, le musée comprend 2 bâtiments, la Villa des Brillants, qui fut la dernière demeure de Rodin, et le musée en contrebas. C'est dans cette maison que le sculpteur vécut les 20 dernières années de sa vie. Il y fit venir de nombreux ouvriers et mouleurs pour travailler avec lui. Dans le musée, vous pourrez voir de nombreux plâtres dans leur état successif pour comprendre le processus créatif du sculpteur. Des œuvres monumentales telles que la Porte de l'Enfer ou les Bourgeois de Calais, mais aussi de nombreuses études et figures pour les monuments de Rodin en hommage à Balzac, à Victor Hugo et à Puvis de Chavannes. Dans le vaste parc autour de la villa, le penseur surplombe la tombe de Rodin et de Rose Beret, c'est celle qui l'accompagna sculpture. Tout au long ouais. de sa vie. Le musée est également un lieu de transmission puisqu'il accueille depuis 3 ans des jeunes en difficulté pour leur faire découvrir la pratique artistique. L'entrée au musée Rodin de Meudon coûte 5€. Elle est gratuite pour les moins de 18 ans et les jeunes européens de 18 à 25 ans.
David Fonkinos, qu'est-ce qui déclenche votre envie d'aller découvrir une destination en voyage ?
Est-ce qu'il vous faut une ambition culturelle
Non, pas forcément, mais en tout cas, moi, j'adore aller sur les lieux des gens que j'admire. Je suis allé, un de mes premiers voyages, c'était à Saint-Pétersbourg pour voir la maison de Dostoïevski. Donc, je comprends tout à fait, comme ça, l'idée d'aller, d'aller sur les lieux, même pas forcément pour visiter les maisons, mais d'être dans l'atmosphère des films ou des livres qu'on aime.
Vous pouvez aller à Nice voir la maison des Varrock, par exemple.
Ça, c'est mon prochain voyage.
Ouais. C'est à moi
Nice,
qui t'ai payé
les frais
d'entrée.
En général, j'allais sur les traces de Charlotte Salomon, mais après Charlotte Salomon et Varrock.
Oui, je suis pas sûre que vous gagnez au change, mais enfin. Bon, on va parler d'autre chose. Une application, Lise Pressac. Je ne sais pas si vous êtes sportif, David Funkinos. Est-ce que vous êtes sportif?
En tout cas, j'adore le sport.
D'accord, vous n'êtes pas sportif.
J'en fais quand même un peu, oui. Non, mais sportif, c'est un peu excessif, quoi.
Je ne sais pas si vous aimez le tennis en particulier, mais en tout cas, si vous avez envie de jouer, mais que vous n'êtes pas licencié dans un club, c'est toujours un peu compliqué de trouver un terrain. Alors, pour vous faciliter les choses, il y a l'appli Anybody. Elle vous permet de trouver un terrain de tennis, mais aussi de paddle, de squash ou de badminton près de chez vous. Plus de 1700 terrains sont disponibles. L'appli fonctionne à Paris, à Lyon, Lille et Bordeaux. Elle s'appelle Anybody, A-N-Y-B-U-D-D-Y.
Et bien voilà, puis de toute façon, vous retrouverez toutes les références des contenus évoqués depuis ce matin 9h sur le site Europe 1. Si vous manque une information, on vous dit tous les jours, mais vous nous envoyez un petit tweet avec le hashtag Europe 1 et on vous répond. Est-ce qu'on a des messages, Lise, pour David?
Oui, il y a notamment Garance, qui est une fidèle auditrice, qui nous dit, je l'ai déjà dit l'an dernier, mais la version poche des livres de David Funkinos, illustrée par Soledad, donne une raison supplémentaire de glisser ses ouvrages dans sa valise.
Très belle illustratrice.
Oui, moi, j'adore, je l'adore. Moi, je voulais que ça soit elle. Et c'est vrai qu'on est maintenant associé sur tous mes livres folio, tous mes livres en poche. Et là, vers la beauté, c'est vrai que le livre marche très très bien aussi parce que la couverture est superbe.
Vous retrouverez donc aussi ces références sur le compte Twitter de l'émission. Nous attendons aussi vos cartes postales, le papier ou numérique. On aime bien le papier. Figurez-vous qu'on en a reçu deux vendredi matin. Celle de Ludwig, une carte de postale de Lyon où il passe son été tout en nous écoutant. Et il a indiqué en PS, Olivier, pensez à la tarte aux pralines ou au quenelle sauce nantois. J'espère que je le prononce bien.
Oui, bien sûr, c'est une sauce classique de la cuisine française. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus estival, mais c'est délicieux.
Ben, c'est délicieux, c'est la cuisine de Lyon, attendez.
Bien sûr.
Alors, autre carte, celle de, je ne sais pas, parce qu'elle vient du Pays Basque avec un mot très, 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 très gentil, mais la carte n'est pas signée et je ne trouve plus l'enveloppe. Alors, chers inconnus, merci infiniment pour votre carte postale du Pays Basque. Je vais les poster, je vais faire une petite photo, je vais les poster sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Rappelez-moi qui m'a envoyé cette carte postale, ça me fera plaisir. David Funkinos, vous entendez nos ventres gargouiller peut-être, parce qu'on approche 11h, ça ne va pas s'améliorer, parce que Olivier Pouls va s'apprêter à parler salade sans dire de salade, mais avant, un jeune homme, oui je sais, il est pourri mon jeu de mots, que nous aimons
très
beaucoup
enfant,
au Club de l'été. Petit Biscuit est sur Europe 1 avec Sunset Lover. Petit Biscuit pour terminer ce Club de l'été, il sera au Festival des Vieilles Charrues dont nous sommes partenaires, c'est à Carré et ce sera ce week-end. Enfin, c'est pas totalement terminé, Olivier Pouls a quelques astuces culinaires à nous dévoiler et c'est sur Europe 1 dans un instant.
Europe 1, le Club de l'été.
Eva Rock. Dernière séquence de cet Europe 1 Club de l'été consacré à David Funkinos. David, en ce lundi, Olivier entame une nouvelle semaine de recettes. Mais juste avant, on va revenir sur le vrai faux qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer tout à l'heure. L'affirmation, c'était il faut mettre les œufs au frais. Mais est-ce que c'est vrai ou faux?
C'est vrai qu'on,
pas les poules, les œufs.
On a parlé des œufs la semaine dernière. On m'a reposé cette question. Quand on achète des œufs, que ce soit au supermarché, chez le crémier, au marché, ça, ils ne sont jamais au frais. Ils sont toujours à température ambiante. C'est le premier réflexe qu'on a en général quand on arrive à la maison, on ouvre le frigo et on met les œufs à l'intérieur. Alors, ça peut paraître un petit peu étonnant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les œufs, la première règle, c'est qu'il ne faut jamais les laver. Parce que quand la poule les pond, elle les enrobe d'un petit film protecteur.
Mais pourquoi il y a des gens qui lavent les œufs?
Pourquoi on lave les œufs?
Il y a des gens qui ont tendance. Aux États-Unis, par exemple, les œufs sont systématiquement lavés. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils sont vendus en produits frais.
Ils sont tout blancs, là.
Alors, non, ça, c'est une question d'alimentation aussi et de variété de poules qui les pond. Mais c'est non, si vous lavez un œuf, il va devenir blanc.
Enchaîner, Olivier,
enchaîner. C'est là, je lui donnerai ma queue Noël pour la rentrée.
C'est déjà fait.
Si vous lavez votre œuf avec de la javel, on sait jamais.
Oui, bien sûr, ma chère Eva. Bon, allez, pour faire rapide sur l'œuf, non. Alors il ne faut pas le laver. Et normalement, s'il n'est pas lavé, si la petite pellicule est gardée intacte, ça évite que, notamment, les bactéries ou la salmonelle ne rentrent à l'intérieur de l'œuf. Et donc, là, il n'y a pas besoin de le mettre au frigo. Et il faut même surtout, si on a mis un œuf au frigo, ce qu'on peut faire aussi, il ne faut surtout pas le ressortir, le remettre. On ne doit pas rompre la chaîne du froid, parce qu'en fait, quand un œuf sort, comme tous les produits qui sortent du frigo, il va condenser. Et donc, cette condensation va enlever cette petite pellicule et donc l'œuf va devenir beaucoup, beaucoup plus sensible à la captation des bactéries.
Objection, votre honneur. Quand on achète un frigo, mais il y a l'emplacement pour mettre les œufs.
Alors, mais pourquoi peut, alors, on peut tout simplement parce qu'effectivement...
Très bonne objection.
Très bonne objection. Valide. Alors, parce que dans un certain nombre de pays, on parlait des États-Unis, les œufs sont lavés et donc doivent être mis au frais. On ne doit jamais rompre la chaîne du froid. C'est exactement comme pour des yaourts. Et puis, on peut aussi, chez nous, garder les œufs dans le frigo si on le veut. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on l'a mis dedans,
il faut les garder
impérativement toujours au frigo. Et puis, il y a un autre inconvénient à garder les œufs au frigo, c'est que les œufs, ils captent les odeurs. Parce que le jaune qui est gras est un capteur d'odeur. Et donc, si ça sent le fromage, si ça sent la viande, si ça sent l'ail, l'œuf, il va capter les odeurs. Donc, mieux vaut le laisser dans un endroit un
mais
peu
on,
tempéré.
L'espressac. Mais on est d'accord que ça ne permet pas de les garder plus longtemps.
Non, pas forcément. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des œufs, on peut les tenir en moyenne 3 semaines, 1 mois, et puis on réécoute la chronique de la semaine dernière.
Exactement.
Pour savoir
s'ils
sont frais ou pas.
Vous mettez dans l'eau, vous voyez si ça coule ou pas.
Ouais.
David Funkinos, la semaine dernière, Olivier Pouls nous a concocté plein de recettes autour du thème du barbecue. Et cette semaine, le thème, c'est ça.
Moi, c'est Monsieur Salade, je suis jamais malade. Moi, c'est Monsieur Salade.
On va finir avec les chansons un peu.
Je ne sais pas comment elle va faire, il reste encore un certain nombre d'émissions.
Je vais vous trouver tous les jours de la semaine, je vais vous trouver une chanson sur les salades. On teste quoi comme recette de salade, Olivier?
Je me suis dit que, oui, après le barbecue et souvent la saucisse ou la viande, on va prendre un petit peu de légèreté, on va faire des.
Oh,
on va décliner les salades.
Alors, les salades périgondines, oui, il peut y avoir du gésier ou des pommes de terre.
En plein été, on va essayer de les alléger quand même. Et je vous propose une salade de courgettes en trompe-l'œil un peu originale. Donc vous allez acheter des petites courgettes, parce que ce qui est important, c'est que les courgettes ne soient pas trop pleines de pépins et ne soient pas molles. Donc des petites, bien fermes, c'est l'idéal. Et avec un économe...
Courgettes niçoises, je vous conseille.
Ben bien sûr. Avec un économe, vous allez tailler de jolies tagliatelles. Vous savez, tout simplement... En remontant de haut en bas, vous allez prendre ces petites tagliatelles et on va faire un assaisonnement de type pesto, mais qu'on ne va pas incorporer, qu'on ne va pas mélanger, qu'on ne va pas piler ensemble. Donc il vous faut du basilic, de l'huile d'olive, des pignons de pin et du parmesan. Et vous allez assaisonner tranquillement cette salade avec tous ces éléments. Donc ça va avoir le goût du pesto. Ça va ressembler d'ailleurs à des pâtes. Un petit peu comme si elles avaient été cuites. Mais vous allez garder le croquant de la courgette. Le côté évidemment très frais aussi de cette courgette qui ne contient pratiquement pas de calories. Donc hormis l'huile d'olive, un petit peu de pignon de pin et de parmesan, vous avez quelque chose de très léger, de très estival. Et puis vous forcez bien sur le basilic parce que ça, c'est très bon.
Olivier Pouls, David Funkinos, vous validez la recette d'Olivier Pouls?
Mais j'attends qu'il m'invite et qu'on ait déjeuné chez lui.
Bon, on va prendre date.
Et voilà, comme quoi. Si vous testez les recettes d'Olivier, vous faites une photo, vous nous l'envoyez sur Twitter. Si elle est ratée ou pas, on prend quand même. Et surtout, vous nous dites si c'est bon, Olivier Pouls.
Oui. Et vous savez, dans cette salade, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on pourrait rajouter quelques algues si on en a. Hein.
Mais oui. Oui, parce qu'on peut les acheter en algues séchées, en fait. Hein.
Alors, soit en algues séchées, soit dans des petites boîtes, dans des petits pots.
Des petits bocaux, oui.
Elles ont été mises à stocker. Vous pouvez les récupérer, les utiliser, en mettre un tout petit peu dans votre salade.
Si vous avez des questions pour Olivier, vous n'hésitez pas non plus. Hein. C'est sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Je vous rappelle, ce club de l'été, c'est le vôtre. Merci infiniment, David Funkinos. Merci d'être revenu dans le club de l'été. Votre roman Deux Sœurs, édité chez Gallimard, est disponible dans toutes les librairies, évidemment. Comme on dit, jamais 203.
Non,
chance, peut-être que vous serez de retour dans la saison 3 du Club de l'été.
Avec plaisir.
Vous viendrez défendre une adaptation d'une de vos œuvres ou pour un nouveau roman, d'après vous?
Nouveau roman, je pense pas.
Non.
Pour l'année prochaine, mais
l'adaptation,
on verra.
Ou une création.
Je peux venir pour le plaisir aussi.
Ah, mais carrément, vous venez quand vous voulez, de toute façon, c'est la carte est à vie, la carte de membre.
C'est un plaisir.
Merci infiniment d'avoir passé ces 2 heures avec nous, vraiment. Lispressac et Olivier Pouls, on se retrouve demain, même lieu, même heure, et je pense que nous allons perdre Olivier Pouls demain, chère Lispressac.
Je serai là.
Oui, mais c'est une artiste née à Bruxelles qui nous rejoint.
Ah,
et je vous rappelle qu'Olivier est belge, c'est sans doute son seul défaut. Elena Noguera sera avec nous et on s'en réjouit. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff en vous souhaitant une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Et puis à demain.
À demain.
À demain, les amis.